La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale. Dans les derniers épisodes de La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale, avec Félix Fournier, on a déjà parlé du débarquement de Normandie avec l'historien Fabien Sinette. Mais Félix, il y a tellement de choses à dire sur le débarquement que ça prenait un autre épisode.
Oui, parce qu'on a parlé aussi sur l'épisode sur M. Marlin avec Tom Eden. Mais là, on va incorporer des témoignages dans le grand plan du débarquement de Normandie. Puis c'était quoi cette opération-là? T'sais, le grand plan a été souvent parlé, puis il y a des tonnes.
Il y a des films.
Des documentaires qui ont été bâtis là-dessus. Je voulais faire l'incorporation des Gaspésiens, des petites parties de témoignages, parce qu'il y en avait tellement. Parce que oui, on a parlé beaucoup des batailles antérieures, mais celle-là, c'est celle-là qui va prendre le plus de force gaspésienne, de troupes, de gens d'ici. Il y a des gens que j'avais tellement hâte de vous parler.
Oui, t'as hâte de nous présenter plusieurs personnages gaspésiens qui ont participé. Comment ça a commencé, ce fameux débarquement de Normandie?
C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont associer Chanson d'automne, le poème de Paul Verlaine, au débarquement, probablement parce que c'est un fait francophone. Petite mise en contexte, c'est qu'à la radio BBC à Londres, il y avait des contacts avec les gens de la résistance française. Ça fait que le 1er juin 1944, les sanglots longs des violons de l'automne vont être mentionnés. Et c'est un mot de code pour dire que le débarquement s'en vient.
Donc on a utilisé ce poème-là à des fins militaires.
Et le 5 juin blesse mon cœur d'une langueur monotone, qui voulait dire que le débarquement va être le lendemain. C'était dans une série de textes, dans la série René Lévesque, qui était produite dans les années fin 90. On le voit faire des petits extraits comme ça, c'est très intéressant. La résistance française, qu'est-ce que c'était? C'est que la France est sous l'occupation nazie depuis 40. Ils souffrent beaucoup. Il y a des gens qui s'organisent, il y a beaucoup de factions différentes qui vont s'organiser puis qui vont saboter l'effort militaire allemand. Le premier point, c'est justement de nuire à l'Allemagne de façon continue, de les harceler, de les agresser.
C'est un peu ce qu'on voit aussi dans le film Inglourious Basterds avec Brad Pitt, où on sabote dans le cinéma plusieurs choses. C'est un peu ce qu'on faisait partout.
Exactement. Et je vais prendre 2 secondes pour parler un des plus grands résistants français, Jean Moulin, que j'ai eu la chance de voir son habit et son chapeau. Jean Moulin a été pris dans les années à la 43, si je me souviens bien, torturé pendant plusieurs jours, jamais dévoilé c'était qui c'est les alliés qu'il y avait. C'est vraiment comme le modèle de la résistance française. Mais dans la résistance, il va y avoir différentes factions. Il va y avoir les communistes qui, eux, vont attendre que l'invasion nazie. Donc, il va y avoir des guerres à l'intérieur de la résistance.
Autant de mentalité que de factions.
Quelque chose qui est très triste, c'est que ces gens-là vont essayer de se battre justement contre les Allemands, mais aussi contre comme la gendarmerie française. Il va y avoir comme des luttes de pouvoir parce qu'eux, il y en a qui vont collaborer. Puis il y a des gens de la résistance qui vont être contre les nazis. Puis quand la guerre finit, ben là, on voudrait renvoyer tous les résistants chez eux. Bon, c'est fini, on va remettre les institutions comme c'était. C'est extrêmement triste parce qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais ça, c'est la résistance. Il y a aussi beaucoup de documentaires là-dessus.
Pourquoi avoir fait un débarquement?
Notre ami Staline, qui est chef de l'Union soviétique, se bat et met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes dans le combat contre les nazis et demande depuis plusieurs années l'ouverture d'un autre front par les alliés, pour justement diminuer.
Faire distraction aussi.
Ben, c'est impartir les forces nazies des deux côtés. Donc, c'était prévu pour 43, il y a eu l'Italie, puis là, finalement, il n'y a pas de débarquement en Europe continentale, parce que c'est ça qu'il veut, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de troupes là, puis il sait qu'ils vont avoir besoin de renforts, là.
C'est un débarquement qui a été retardé longtemps pendant la guerre.
Puis où ça a été décidé, le débarquement de Normandie? La réponse a été décidée au château Frontenac et sur la citadelle de Québec.
Pour vrai?
Oui, lors de la conférence de Québec, aussi connue sous le nom de code Cadran, qui va se tenir du 17 au 24 août 1943 avec Winston Churchill, Harry Truman, Franklin Delano Roosevelt. Mais Truman était sûrement là parce qu'il était vice-président.
Il devait pas être loin, en tout cas.
Ainsi que le premier ministre Mackenzie King du Canada.
Tout ce beau monde-là est venu à Québec.
Eh oui, pour préparer les...
Il n'y avait pas FaceTime dans le temps.
Donc, on décide du débarquement, mais on décide aussi du lieu.
Pourquoi la Normandie?
C'est extrêmement complexe. Le premier point, ce qui pourrait être le plus naturel, ça aurait été Pas-de-Calais. C'est là que la Manche est la plus courte entre Douves et la France, Dover, en Angleterre. Mm-hmm. Donc, c'est là que le chemin le plus court pour apporter des troupes, c'est le plus facile. Les fortifications sont aussi très fortes et les meilleurs généraux allemands, un des meilleurs, est situé là et attend l'attaque.
Stratégiquement, c'est pas une bonne place, mis à part l'étroitesse de la Manche.
Puis, mais ils vont se servir de ça. Ça a de quoi de très sympathique. Patton, général Patton américain, que les Allemands ont en admiration et en hantise, va être positionné à cette dans le coin de Douvres avec plein de tanks gonflables.
Des tanks gonflables?
Oui.
Je savais pas que ça existait.
Pour faire diversion, pour que les Allemands pensent que le débarquement va avoir lieu à Calais. C'est ça, la Normandie, ça va être un point creux où ce qu'il y a moins dans ce lieu-là, où ce qu'il va y avoir le débarquement, dans la plage de Junot, Courcelles-sur-Mer, c'est vraiment là où ce que les fortifications sont le moins fortes du mur de l'Atlantique. Parce que les Allemands ont fait beaucoup, beaucoup de ciment durant la Deuxième Guerre mondiale et ont fortifié beaucoup dont les îles Jersey et Guernsey. Eux, ils vont être tellement fortifiés que les Alliés vont faire le tour puis ils vont se rendre seulement le 8 mai. Le 6 juin, qu'est-ce qui commence? C'est les derniers 336 jours...
De la guerre.
De la guerre en Europe. Parce que la guerre au Japon, ça va aller plus loin. Pourquoi 336 jours? C'est que dans l'appellation, c'est que le jour J de D-Day, le débarquement, les gens vont dire quand ils vont débarquer, j'ai débarqué D-Day ou jour J plus 3, jour J plus 7, jour J plus... C'est comme le point de référence dans le...
Une date très connue qui est un point de référencement dans l'histoire.
C'est ça, parce que les gens, ils vont avoir les premières vagues, comme on disait sur Juno Beach, de soldats. Puis après ça, il va y avoir des ponts qui vont être faits, des ports qui vont être libérés, puis il va y avoir des quais flottants, aménagés pour débarquer, parce qu'il va y avoir besoin... Tu sais, la première vague, vous prenez la plage, mais ensuite, il faut que vous continuez à envoyer...
Il faut la maintenir aussi.
Ce que Hitler, d'ailleurs, croyait qu'il rejetterait les Alliés à la mer. Il a eu tort.
En début de podcast, on a dit qu'on parlerait de nos Gaspésiens. Comment ils se sont impliqués dans ce débarquement-là et qu'est-ce qui est arrivé?
J'ai trouvé dans l'ensemble de ma collecte de données M. Harry Legrand. Il n'est sûrement pas le seul, mais c'est lui qui était là la journée du débarquement. Il a débarqué à 9h sur la plage de Junot.
Précis.
C'est ce qu'il mentionne. Puis, il décrit un peu c'est quoi qui se passe là, après les combats, puis il dit « On a passé une nuit terrible. » Ça, c'est dans la nuit du 6 au 7 juin 44. On a quelques conserves, la soupe réchauffée à boire. Le lendemain matin, on se fait bombarder des bombes antipersonnelles, des bombes éclairantes avec des petits parachutes. On était une douzaine de kilomètres à l'intérieur des terres. Fait qu'il y a quand même... Tu sais,
ils ont progressé.
On était supposé prendre la ville de Caen en une semaine. Finalement, ça sera beaucoup plus long. Monsieur Harry Legrand est décédé en 2014 à l'âge vénérable de 96 ans.
Il a eu le temps de partager ses mémoires.
Exactement. Avant de décéder.
Il y a aussi Émilien Dufresne.
Émilien Dufresne, qu'on va reparler plus tard, mais je fais juste un petit aparté vite, vite. Lui, il est au débarquement aussi, mais pour lui, ça va être très, très court. Parce qu'il débarque le 6, il avance, Courcelles-sur-Mer. Ils ont une mission de prendre un canon de 88 mm allemand qui tire vers la plage. Il est fait prisonnier. Il fait partie d'un petit groupe qui vont être faits prisonniers. Pour lui, la guerre est finie au niveau militaire, mais commence un autre rôle, puis il va être prisonnier, puis il va être transporté jusqu'en Allemagne. La plupart du temps, je dis transporté, mais souvent, ça va être à pied, donc ça va être lui. Mais on va reparler de M. Émilien Dufresne dans un épisode avec sa fille, parce qu'il y a un livre magnifique qui est écrit, lui et sa fille, qui s'appelle « Carnet d'espoir », dans lequel il décrit l'ensemble de sa participation à la Deuxième Guerre mondiale.
À suivre dans un autre épisode. On a parlé du frère de M. Fabien Sinette dans le dernier épisode, Mathias, qui a participé lui aussi à la guerre.
Pourquoi on revient sur lui? C'est qu'il va prendre... Il va être comme à la fin de l'attaque de la campagne de Normandie. Parce que la campagne de Normandie va durer jusqu'au 21 août, grosso modo. Ça va être la fin des... Il va avoir pris l'aéroport de Carpiquet. M. Sinette vous explique tout ça dans un podcast antérieur. Et c'est là, après la fin de cette campagne-là, il y a 5000 soldats canadiens qui vont être tués, puis 18 700 qui vont être blessés ou prisonniers ou portés disparus dans le... Si on compare à la campagne d'Italie, ça va être aussi très dur, mais je veux dire, sur le court laps de temps, ça va être très grande demande en effort humain pour le Canada durant la campagne de Normandie.
On a parlé du livre d'Émilien Dufresne, mais qu'il a écrit avec sa fille, mais il n'est pas le seul à avoir sorti un livre sur ce qui s'est passé pendant la guerre. Il y a aussi Ludger Hood qui a sorti un récit anecdotique 1939-45, Ma guerre, mon implication personnelle et générale. C'est le titre et on a des extraits qui nous sont lus par Félix Hood. Monsieur Ludger Hood était son grand-oncle.
Exactement, puis il va nous parler un peu de c'est à quoi sa vie, puis comment est-ce que lui a entendu parler de la guerre à travers les yeux, les paroles de son grand-oncle.
Ben, dans mes souvenirs, qui dit Ludger Hood, dit Didier Hood, parce que c'était le frère de mon grand-père. Puis quand on est enfant, veut pas, il y a comme une distance avec nos grands-parents, mais on est proche, mais on est loin, dans le sens qu'on connaît pas trop leur vie, on les comprend pas trop, donc on les respecte. Donc le frère de mon grand-père, je le connaissais encore moins, il habitait à ma connaissance en ville, à Montréal, dans ces coins-là. Puis je le voyais de temps à autre, une fois ou deux... je veux dire, une fois par année, une fois par deux ans, tu sais, quand mes grands-parents me gardaient. Fait que je savais qu'il avait fait la guerre. Dans ce temps-là, j'étais assez jeune. J'avais pas pleinement conscience de c'était quoi la guerre, ni la Deuxième Guerre mondiale, naturellement. Mais je savais un peu c'était quoi être soldat, là, avec les films d'action qu'on pouvait voir. Le souvenir que je peux raconter, c'est que moi, je jouais dans le salon chez mes grands-parents, Georgette, puis la femme de mon grand-père Didier Hood. Et puis là, la visite arrive. C'est Ludger Hood avec sa femme. Là, mes grands-parents sont contents de les rencontrer. Mais moi, je suis un peu gêné. Je les connais pas trop. Je continue de jouer avec mes cartes ou je sais pas trop. Et puis là, aussitôt que mon grand-père Didier puis Ludger, ils serrent la main, ça a pas été long que Ludger, il sort son livre. 1939-45, Ma guerre, mon implication personnelle. Il remet ça à mon grand-père Didier. Puis là, Didier, il parlait pas beaucoup. Hein, il dit, hey, tu l'as fait. Hein? Puis ça m'a marqué. J'ai senti que mon grand-père était fier de son frère. D'une part, il a accompli des grands exploits d'avoir fait la guerre déjà, d'avoir survécu et tout, mais d'avoir pu, dans un livre, raconter son histoire personnelle. On peut imaginer que ça présentait des défis. Puis je sentais une grande fierté chez mon grand-père Didier, puis une belle complicité entre les deux frères qui, pour le reste, c'est ça. Moi, j'ai pas eu la chance là, de parler avec M. Ludger. Puis plus tard, dans ma vie d'adulte, ben ça m'intéressait. T'sais, j'en parlais à mon père un peu. Mon père, c'est quasiment un historien. Il connaît bien ce qui se passe à Tite-Vallée. Il connaît son oncle Ludger, c'est sûr. Il parlait un peu de la guerre de même, mais à un moment donné, mon père, il me l'a donné, le livre. Il en avait une couple de copies. Mon père, il traîne beaucoup de copies des livres qu'il trouve assez bons pour les partager. Il m'en a donné un. Puis je l'ai lu. Puis j'ai été vraiment impressionné, surpris. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Faut dire que j'avais pas lu beaucoup de livres sur la guerre. Puis là, c'est un témoignage personnel. C'est vraiment comme il dit, c'est son implication personnelle. Donc, il raconte pas l'histoire de la guerre. Il raconte, lui, comment il a vécu ça. Par des anecdotes, mais des anecdotes qui en disent beaucoup. Puis moi, ce qui m'a marqué... Tu sais, je te partage ça, Félix. C'est qu'à un moment donné, il était en mission, là, je ne sais plus trop où, là, pendant la Deuxième Guerre. Il a fait beaucoup de missions. Puis là, c'est comme si un de ses généraux, il voulait faire des tests. C'est comme s'il n'était pas trop sûr s'il y avait du monde en embuscade ou il y avait du monde là-bas. Puis là, il voulait comme envoyer de ses propres soldats aller vérifier. Mais il dit, ouais, mais là, s'il y a du monde là-bas, ils vont se faire tirer dessus, ils vont se faire tuer. Là, il y avait comme un enjeu. Là. Tu peux pas tuer du monde pour rien de même. Puis là, Ludger, il raconte que finalement, il s'est un peu astiné avec son major là-dessus. Tu sais, il dit, ben là, tu peux pas faire tuer le monde de même. Puis là, le major, il a répondu genre, ouais, ben là, t'es soldat. Il a quasiment dit, si t'es soldat, t'es fait pour mourir. Là, genre une phrase aussi niaiseuse que ça. Là. Puis là, c'est là qu'il a répondu à son major. Il a dit, ben, on peut pas gagner la guerre avec des soldats morts. Puis, il avait bien raison. Il faut que tu respectes tes hommes. Et s'ils sont en vie, ils vont se battre pour toi. Ils vont gagner. Si t'es fait tuer pour des broutilles. Mais... En tout cas, ça m'avait marqué. Puis j'ai toujours vu ça un peu, la guerre, comme il y a des luttes, pas de pouvoir, mais d'idées. C'est comment tu mènes un combat. C'est la vie. Les gens vivent ensemble. Ils se côtoient au jour le jour. Donc, ils sont attachés aux, ils veulent pas se faire tuer de même, là. Surtout s'il y avait du monde qui débarquait, là. Il y avait des majors, là. Je peux peut-être pas celui-là, mais s'il y avait des majors, ils arrivaient de nulle part, et ils donnaient des ordres, ils connaissaient même pas. Ils disaient à l'autre, va te faire tuer. Ils disaient, allez, Chris, c'est mon chum. On se protège, nous autres, là. Fait que c'est pas mal intéressant. En tout cas, j'invite les gens à lire. C'est un beau témoignage qu'on a. Je sais pas combien qu'on en a d'autres. Vraiment des témoignages écrits de nos soldats gaspésiens qui ont fait la guerre, là. C'est une grande, grande valeur. Ça se lit très, très bien, là. Ça vaut la peine. Puis mon père, il doit y en rester une coupe.
Et justement, parlant de ces témoignages, Félix Houde a accepté gentiment de nous faire le récit de ces témoignages de son grand-oncle, Luigi Houde.
Le jour J, le 6 juin 1944, les Alliés, incluant les Américains, débarquent en Normandie. Le régiment de la Chaudière, avec notre cousin Domicile Lachance, ainsi que ses régiments frères, le North Shore du Nouveau-Brunswick, le Royal Rifle d'Ottawa et le reste de la 3e division de l'armée canadienne, débarquent à Bernières. Les Allemands les accueillent par un feu d'artifice, comparable à ceux de Benson & Hedge présentés à la ronde chaque année, autant par ses lueurs fulgurantes que par ses détonations étourdissantes. L'armement de défense à la disposition des Allemands tient de l'imaginaire. Il sème la désolation et la mort parmi nos soldats, qui malgré tout réussissent à prendre pied sur le sol de France et à tenir tête à l'ennemi, qui doit se replier sur ses arrières. Le 6 juillet 1944, c'est notre tour. Nous débarquons à Courseul, non loin de Bernières. Nous foulons le sol de France, un mois jour pour jour après le jour J, en considération, nous a-t-on dit, du sacrifice des fusillés Mont-Royal durant le raid de Dieppe. Merci pour le geste. Nous remplaçons le régiment de la Chaudière à l'aéroport de Carpiquet, près de Caen. Nous commençons à nous battre près du faubourg de Vaucelles et d'If. Impossible de me rappeler tous les endroits où nous avons livré bataille, ni comment le combat s'est déroulé, ni la chronologie dans laquelle les événements ont lieu. Je crois aussi que plus les combats ont été durs et féroces, Dieu, dans sa grande sagesse, a permis que leurs souvenirs s'estompent dans notre mémoire. Et c'est très bien ainsi. Autrement, très peu de vétérans ayant survécu à la ligne de feu seraient encore capables de vivre une vie sensée et équilibrée. Pensons aux vétérans américains du Vietnam qui ont été tellement perturbés et qui ne peuvent oublier. Ils ont un comportement bien loin d'être enviable. Mes souvenirs de guerre ne sont certes pas tous uniquement terrifiants. Noël 44. La veille de Noël, on nous retire du front et on nous loge dans un monastère à Molenhoek, où nous avons été à la confesse et à la messe de minuit, comme les bons chrétiens que nous sommes. Le jour de Noël, nous recevons la visite du nouveau commandant de notre régiment, le colonel Jacques Dextrase, qui remplace le colonel Paul Sauvé, réélu député au Parlement de Québec. En son absence, et nommé ministre, il doit quitter l'armée pour siéger à la législature du Québec. Notre nouveau commandant a beaucoup changé. Sa promotion et l'expérience acquise avec le temps et les événements l'ont considérablement assagi, si bien qu'il s'entend lui-même dire, d'un petit air timide, « Les gars, j'ai appris bien des choses, et surtout avec vous autres, les gars du peloton anti-char, sur la façon de voir et de comprendre les choses qui se passent sur le front. » Nous avons beaucoup apprécié son discours et ses meilleurs souhaits de bonnes et heureuses fêtes de Noël et du jour de l'an. Le jour de la parade de la victoire arrive enfin. Après avoir suivi un entraînement éreintant et sué sang et eau, on m'annonce que je n'y participerai pas. On me nomme sergent du jour, le jour de la parade. Je demeure donc au quartier général avec l'officier du jour pour m'occuper de la sécurité, de l'entretien, du personnel et des relations avec les Allemands, qui nous inondent littéralement de leur reconnaissance de les avoir délivrés de Hitler et de ses sbires. Alors, j'ai compris que le fait de parler une langue étrangère peut très bien devenir un vrai boulet à traîner et vous jouer des vrais tours de vache.
C'était Félix Houde qui nous parlait de son grand-oncle, Luigi Houde.
Ce qui est différent dans cet extrait-là, c'est qu'il y a une remise en cause. M. Luigi Houde remet en cause les décision militaire. Ce qui est, la plupart du temps, quand on a des témoignages, il y a comme, c'est extrêmement rare de voir quelqu'un qui dit c'est pris des mauvaises décisions. Peut-être qu'il avait été chaudé beaucoup parce qu'il était sur la deuxième ligne pour le débarquement de Dieppe qui fut un fiasco total. Mm-hmm. Il n'est pas seul. Léo Major, surnommé le Rambo québécois, qui n'était pas gaspésien, c'est mentionné. Mais lui, vous irez voir sur le... Utilisez Google à bon escient et allez prendre 10 minutes de votre vie pour voir son récit Surtout que Léo Major a pris une ville de 93 avec... Il a pris 93 prisonniers allemands.
À lui seul?
À lui seul.
Comment il a fait?
Il a été décoré deux fois d'une des plus hautes distinctions canadiennes, la Deuxième Guerre mondiale, puis la guerre de Corée aussi. Puis Léo Major, quand il reçoit sa première grosse décoration, que le nom m'échappe malheureusement, c'est le général Montgomery, qui est à la tête des armées anglaises, qui est supposé lui remettre la médaille. Et il décline la médaille... parce qu'il dit « Montgomery est un mauvais leader militaire. Je veux pas recevoir de décoration de lui. »
Oh, ça prenait du guts, pareil, pour faire ça.
Il devait être très bon parce qu'ils l'ont rappelé pour la catégorie.
Un autre personnage dont on a déjà parlé et qui t'a particulièrement marqué puisque c'est un membre de ta famille, le fameux Firmin Fournier.
J'ai eu la chance, quand j'étais plus jeune, de passer une après-midi avec lui dans laquelle il m'avait parlé de la guerre. Puis j'avais comme souvenir, puis j'en ai parlé avec la famille, puis il n'y avait pas vraiment plus d'infos, mais Internet étant ce qu'il est. Il y a quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, qui a mis en ligne un épisode qui avait été tourné avec Firmin Fournier, qui était interviewé par Jacques Bouchard. Et le tout a été diffusé à la télévision communautaire de l'Estran, anciennement Télésourire, qui m'ont gracieusement passé des extraits qu'on va entendre pour Firmin Fournier. Pourquoi Firmin Fournier a fait la guerre? Lui, ce qu'il m'avait dit, c'était « Je voyais mon avenir comme un pêcheur, comme mon père et mon grand-père. C'était la seule chance que j'avais de voir l'Europe. Je me suis enrôlé pour faire la guerre. » Rapidement, il va être passé à Halifax, un peu d'entraînement, il va s'en aller en Angleterre. Et il fait beaucoup de parades. Et il n'aime pas faire la parade. Mais il y a une seule façon de s'en sortir, c'est de faire des formations. Donc, il prend toutes les formations possibles, dont des formations en radiocommunication. Ces formations-là vont lui servir parce qu'il va faire le D-Day, le jour J, plus 3. Puis il va suivre des officiers haut gradés canadiens, unilingues anglophones, parce que lui, en plus d'avoir pris des cours de radiocommunication, va apprendre très rapidement l'anglais, ce qui va lui permettre d'être un interprète, eux, ceux qui sont unilingues francophones, ou les Français qui sont sur le terrain.
Ça le rend pas mal indispensable.
Disons que ça lui a permis, ça lui a sauvé beaucoup de boue. ses bottes étaient plus propres durant la guerre. Donc, on l'entend parler de son travail, de son affectation dans les camps, dans les roulottes militaires, dans l'extrait qui suit.
C'est important pour le général. La nuit, d'après-midi, nuit, c'était tranquille, mais rendu à 5 heures du matin, là, celui qui était dans la roulotte, à l'échange téléphonique, il avait droit à faire. Les rapports de la nuit se faisaient de 5 heures du matin à 8 heures. À 8 heures, c'était plusieurs officiers qui arrivaient. Puis là, le rapport de la nuit, il se faisait, puis il y avait des grandes cartes après le mur, puis là, des aiguilles, des épingles, qui, si ça avait avancé la nuit...
Il fallait qu'ils sachent où les troupes étaient.
Oui, oui, puis ils savaient quoi faire, décider quoi faire la nuit d'après.
C'est ça.
C'est là que ça se décidait dans la bâtisse.
On pense souvent que tous les gens qui ont fait la campagne, le débarquement, tout ça, étaient des militaires, mais c'est pas le cas.
Comme on vient d'entendre, M. Firmin était quelqu'un qui s'occupait des... cartes, des communications radio. Mais il y avait aussi Louis-Ralph Brochet, qui venait de percer, qui, lui, était affecté à des tâches de postal.
Donc, d'envoyer le courrier des soldats et
exactement, exactement. Mais surtout, il dit, le plus gros truc, c'était les cartouches de cigarettes qui étaient envoyées aux soldats.
Il devait avoir de la contrebande un peu.
Disons que celui qui fumait pas devait monnayer facilement les cigarettes contre à peu près n'importe quoi.
C'est ça, même les non-fumeurs devaient recevoir des cartouches. Fin de la parenthèse postale, on retourne à Firmin Fournier.
Dans le témoignage qui est enregistré, il parle d'un sujet qui m'a... J'étais persuadé que jamais j'entendrais parler de ça. Il parle des missiles V2. Qu'est-ce qu'étaient les missiles V2?
Oui, c'est la question que je me posais.
Est-ce que tu as déjà lu Tintin sur la Lune?
Pas vraiment, non.
On a marché sur la Lune.
Oui.
Ben, le modèle que Hergé prend, ça ressemble aux fusées, justement, qui étaient utilisées par les Allemands. C'était des très, très gros missiles. Ils étaient supersoniques. C'était... 25 ans en avance, tout le monde dans le...
La grosse technologie pour l'époque.
Exactement. Et ils vont utiliser ces missiles-là pour bombarder Anvers, en Belgique. Et on entend Firmin Fournier nous parler justement de la dévastation causée par ces missiles.
Il y avait 2500 livres d'explosifs dedans. Ça faisait... En Belgique, là, à Anvers, j'ai vu les rues droites, là, puis à un moment donné, arrivait une autre rue. Là. La rue ne continuait pas, là, c'était aussi sur une autre rue. Là. Puis tombé à un quart de mille à peu près du bout de la rue. Puis tous les murs vis-à-vis de la rue, le soufflé, pour voir clairement l'autre côté. Moi, c'était les grosses bâtisses, ils restaient en l'air. Ils étaient soufflés.
Fait qu'il faut s'imaginer que tous ceux qui pouvaient être dans les bâtisses étaient plus là.
Oui,
hein?
Oui, mais quand ça a commencé, quand on est arrivé là, on voyait du monde. Quand ça a commencé, ça a diminué vite. Les gens ont gagné campagne aussi vite que possible. C'était libéré, fait causer. Puis,
là, vous parlez des civils, là.
Oui, oui, oui.
Mais les militaires restaient là quand même,
ben
comme
oui.
Vous, comme
ben
militaires.
Oui, ben oui. Il y avait un hôpital, un gros hôpital, puis l'armée anglaise l'avait sollicité pour mettre les blessés. Puis ça a été bombardé pareil comme les autres. Puis, c'était atroce de voir des camions passer avec des gouttes de boue, puis sanglantés à grosseur. Puis d'autres qui étaient restés sur ce lieu, dans l'hôpital.
Je présume qu'on se fait pas à cette misère-là. On peut pas s'habituer à ça. On se fait une carapace, mais...
Ça devient un état qu'on se disait, entre nous autres, notre nom n'était pas dessus.
Tu nous en dis un peu plus sur les missiles V2?
Je me suis posé la question, comment les militaires qui avaient subi des impacts des V2, de ces missiles-là, qui voulaient dire vengeance, c'est pour le...
Pour leur nom.
Exactement. C'est que le père du programme... de missiles était Werner von Braun.
2 V?
Non, Werner, c'est un W.
Ah, oui, c'est vrai.
Je vais me reprendre, c'est Werner von Braun.
Oui, ouais, ton allemand n'était pas très bien prononcé.
Merci beaucoup. Et lui va être recruté par les Américains et va être le père du programme spatial Apollo.
Ah, oh, par la suite?
Par la suite. Donc, il avait fait les V2, mais il a aussi fait les Saturn V, ces fusées qui ont envoyé les premiers hommes sur la Lune.
C'est intéressant, ça, à savoir. La fin de la guerre pour oncle Firmin Fournier, comment ça s'est passé?
Je vais lui laisser la parole.
Oui, à peu près un mois, on est resté aux mêmes places. On n'a pas oublié. On avait le même travail à faire. Puis, on mangeait le même corned beef à tous les jours, pareil. Puis, là, quand on a eu signé pour le Japon, voilà, ça a augmenté. Là, on est parti pour Ostende, je pense, Appledown. Puis là, on a pris un bateau pour l'Angleterre. On a été un mois en Angleterre avant à se promener dans les rues puis à marcher dans le parc.
Comme en vacances.
Oui, c'était
comme ça.
Donc là, on n'aura pas de travail à faire.
Un personnage dont tu nous as parlé pendant la campagne d'Italie, c'est Charles Bouchard, et il continue à nous faire parler.
Oui, M. Bouchard, qui était natif de Cloridum, qui a grandi à Lanse-Griffon, a fait la campagne d'Italie. Le Royal 22e Régiment, en janvier-février, va être envoyé sur le front européen, parce que c'est presque la fin de la campagne d'Italie. Fait qu'ils vont prendre des péniches, ils vont traverser par Marseille, remontant en train sur Paris. Puis, lui, il va vivre la partie de la campagne hollandaise, on pourrait dire. Une période extrêmement dure parce que la Hollande a subi 4 ans d'occupation. Les Allemands sont sur la fin de la guerre. Les denrées alimentaires sont presque inexistantes. Donc, M. Bouchard nous parle un peu de ce que c'était. Il m'est arrivé de coucher dans des trous avec des rats pendant qu'on se faisait bombarder. En anglais, on appelait ça « Starvation Winter ». L'hiver de la faim en Hollande 44-45. Beaucoup de monde était mort pendant l'hiver. Et rendu au printemps, il y avait encore des gens qui mouraient de faim. On traversait les lignes le matin après 6 heures. C'était l'entente intervenue entre le haut commandement allemand et canadien en Hollande. La reddition des troupes allemandes aux Pays-Bas fut acceptée le 5 mai. On avait traversé avec de la nourriture pour les civils. Donc l'armée canadienne et les soldats vont être affectés à des tâches de ravitaillement dans des ententes tacites.
Un peu ce qu'on connaît dans les dernières décennies des casques bleus.
Non, mais c'est très proche, ouais. C'est ça, parce que là, t'as comme...
Travail humanitaire un peu plus.
Puis M. Charles Bouchard dit, je me souviendrai toujours de l'armistice, parce que c'était le 8 mai, la journée de mon 21e anniversaire.
Ah, c'est un beau cadeau de fête.
Oui, mais il y en a plusieurs là-dedans qui vont signer pour le Japon.
Ah, pour aller poursuivre la guerre...
Parce que le Japon, la guerre, la reddition allemande. Exactement. Oncle Firmin... était fait un entraînement justement à Halifax pour aller retourner. Monsieur Lewis Sinette de Gaspé, c'est l'histoire que Madame Diane Sinette m'a contée, merci beaucoup. Puis c'est ça, son père avait signé aussi pour le Japon. Il y a beaucoup de gens qui vont se préparer pour aller... Parce que, en plus, les gens de Gaspé, il y a encore les prisonniers qui sont là.
Qui n'ont pas été libérés encore.
Ceux-là de Hong Kong.
Ah,
il y a
oui,
comme
oui.
Un espèce d'intérêt fort... pour finalement aller accélérer, parce qu'ils savent qu'ils ont des frères ou des cousins de la parenté qui est
c'est
encore...
un vrai patriotisme aussi de ce côté-là.
Oui, parce que finalement, vous n'avez pas grand-chose à gagner de plus de prolonger la guerre.
Non, c'est ça. On a plus à perdre qu'à gagner. L'as des as que tu me dis en préparation de l'épisode, parle-nous de lui. Qui est-il, ce fameux as?
Sidney Valpy Radley Waters, natif de Saint-Georges-la-Malbaie en Gaspésie. Il est fils de pasteur anglican et petit-fils de pasteur anglican. Lui, il s'enrôle très tôt, mais il va aller dans les fusiliers de Sherbrooke, ou les Sherbrooke Fusiliers. C'est un régiment armé, mais ils vont être convertis en régiment de tanks. Et lui-même mentionne qu'il n'avait aucune idée, il n'avait pas vu encore de tanks quand il est affecté. Et il va devenir le plus grand as de destruction de tanks allemands de tous les alliés,
oui.
Avec 18 victoires. Je dis, comment quelqu'un qui avait aucun background de ça? Lui, ce qu'il mentionne, il dit, lui, il fait le débarquement le jour du débarquement avec les tanks. Puis il dit, on a appris très rapidement ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait surtout pas faire pour rester en vie.
On apprend à la dure.
Son haut fait d'armes, il va détruire le tank et par le même élan prendre la vie de Michael Wittmann, qui est un as de la Deuxième Guerre mondiale, qui, lui, chez les Allemands, la destruction de tanks, parce qu'ils ont fait de la campagne en Union soviétique, est beaucoup plus élevée. Lui, il avait 130 victoires. Monsieur Radley Waters va quand même avoir 18 victoires. Et le deuxième chez les Alliés, c'est un Américain avec 12. Très peu de choses pour marquer son souvenir en Gaspésie, malheureusement. Mais si vous jouez au jeu vidéo de World of Tanks sur Internet et que vous détruisez 8 tanks, vous aurez l'insigne Radley Waters en honneur de...
Quand même une belle marque d'honneur, en fait.
C'est très impressionnant.
Ouais.
J'étais un peu...
C'est surprenant, oui.
Subjugué de dire que j'en avais jamais entendu parler ici en Gaspésie.
Et qu'un jeu vidéo l'honore. On peut voir vraiment que les Gaspésiens ont mis de l'énergie, de la vigueur et ont payé le prix aussi pour ce débarquement de Normandie-là. Sans eux, on peut dire que cette facette de la guerre n'aurait pas été la même.
C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont participé et à différents niveaux, comme on dit, que ce soit de la poste au... C'est sûr que le fait qu'on ait un tankiste qui a été avec le plus de victoires, ça, c'est vraiment une incidence, parce que justement, le tank qu'il avait détruit avec Michael Wittmann, lui, il était à la tête de l'ensemble des troupes allemandes. C'était comme un haut gradé en plus. Puis dans les SS, c'était pas vraiment...
La hiérarchie est importante.
Les SS, c'est que c'était... Il y avait deux armées en Allemagne. Il y avait la Wehrmacht, qui était l'armée traditionnelle, puis il y avait les SS, qui était une armée parallèle, des troupes de choc, avec des gens qui étaient suivis un entraînement, pour la petite histoire, avec des vraies balles, avec un taux de perte entre 5 et 10% à l'entraînement. Donc, c'est ça, ils vont être confrontés à ça, les Gaspésiens. Ils vont être confrontés à des gens qui ont reçu un lavage de cerveau, mais en même temps, plus la guerre en 45 avance, plus personne ne veut plus mourir, parce qu'ils voient, tout le monde voit la fin.
Mm-hmm.
En Allemagne, ils savent qu'ils ont perdu. Les bombardiers américains de jour, les bombardiers anglais de nuit. Ça roule, ça roule. Il n'y a plus vraiment de... Tout le monde sait que c'est juste une question de jour.
Mm-hmm.
C'est à partir de ce moment-là que tu ne veux pas décéder. Pour ce qui est de nos Gaspésiens qui vont s'enrôler pour le Japon, deux bombes atomiques plus tard feront qu'ils ne se rendront jamais au Japon, parce que ça va être la reddition du Japon après la bombe d'Hiroshima puis Nagasaki. S'il y a des gens qui pensent, vous avez parlé de la guerre, mais vous n'avez pas parlé des atrocités allemandes, ça sera pour
un autre épisode.
Le prochain épisode qui sera Amour, médecine et correspondance de guerre.
Ça va être très intéressant. Bien hâte de jaser de tout ça avec toi, Félix Fournier. Merci beaucoup pour cet épisode sur le débarquement de Normandie. On a quelques épisodes, mais je pense qu'on pourra en faire encore d'autres là-dessus sur l'implication gaspésienne. Ça, c'est garanti.
En terminant, je voudrais remercier plein de gens de la TV communautaire de l'Estran pour les extraits de Firmin Fournier. Jacques Bouchard, qui l'a interviewé à l'époque.
Mm-hmm.
Il y a aussi la famille d'Émile Le Seller pour tout le matériel qu'ils m'ont passé. Je ne vous ai pas parlé d'Émile Le Seller, c'est parce que je suis en attente d'avoir un extrait où on l'entend bien parler.
T'en gardes pour plus tard.
J'en garde un petit peu plus tard. Ça sera pour l'épisode bonus. C'est ça, la famille Rodrigue Le Seller puis Martin Le Seller qui m'avaient passé les livres de leur père. Merci à Mme Diane Sinette pour ses informations de première main. Et merci à toi, Émilie, de m'accompagner dans ce magnifique voyage à travers la Deuxième Guerre mondiale.
Ça me fait un immense plaisir. On remercie aussi Félix Hood pour le témoignage de son grand-oncle.
Bien sûr.
Donc, on se dit à bientôt.
À très bientôt.
La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale est une production de Radio Gaspésie avec le soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire. À la recherche et à l'animation, Félix Fournier. À la réalisation et à l'animation, Émilie Gagné. Un merci particulier aux historiens et passionnés d'histoire, Fabien Sinette et Tom Eden. Merci aux familles, proches et descendants de ceux et celles qui ont participé à l'effort de guerre pour leur témoignage. Pour plus d'épisodes et d'informations, visitez le radiogaspésie.ca dans la section « Podcasts ».